Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est très précisément 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Les élections auront lieu l'année prochaine en RDC dans les délais constitutionnels. Confirmation aujourd'hui du président de la CENI, Denis Kadima, affirme que tous les scrutins seront organisés l'année prochaine en dépit des contraintes liées à la préparation. En Ituri, des jeunes de Mambasa Centre protestent depuis hier contre la présence des rebelles ougandais de l'ADF qui sèment terreur et désolation dans la zone. Certains manifestants soupçonnent même des casques bleus d'être de mèche avec l'ennemi. Notre invité, c'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, parle du forum de réconciliation prévu à l'Assemblée épiscopale pour faire taire les dissensions et les querelles qui sévissent dans l'espace Grand Katanga. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Willem Lungamba. De la politique pour commencer. Les élections auront bel et bien lieu l'année prochaine en RDC dans les délais constitutionnels, a affirmé aujourd'hui à Kinshasa le président de la CENI lors du magazine Okapi Service. Denis Kadima affirme que tous les scrutins seront organisés en dépit des quelques contraintes liées à la préparation. Il est au micro de Jodine Kachama.
Nous n'avons jamais raté une occasion pour montrer notre indépendance vis-à-vis de tous les partis aussi politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. C'est le résultat du travail que nous faisons, et quand nous faisons nos projections, nous sommes persuadés que les élections auront lieu en 2023. Dans un pays polarisé comme le nôtre, où aucun candidat président n'a jamais été élu avec 50%, personne n'a eu la majorité absolue, ça signifie que nous sommes un pays polarisé. Avant moi, ceux qui ont été choisis à ce poste, ils n'ont pas eu l'unanimité. Et je ne pense pas que moi je l'aurai, d'autant plus que même Jésus lui-même n'a pas eu l'unanimité, n'a pas joué de ça. Alors, l'état de siège, c'est un travail que nous faisons avec les autorités chargées de la sécurisation. Et dans ce pays, on a eu des cas d'instabilité politico-militaire, mais on a pu quand même organiser les élections. Parfois, c'est dans des conditions difficiles, mais il y a une approche que nous allons répliquer.
La cohésion provinciale et le désenclavement agricole du Congo central, telles sont les deux priorités du nouveau gouverneur annoncé ce vendredi ici à Kinshasa. C'était à l'issue d'une séance de travail avec le coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire, Philippe Ngwala Malembe. Le gouverneur du Congo central, Gimbandu Ndungidi, est au micro de Paul Matendo Mayamba.
Et dans mon programme, la question prioritaire, c'est d'abord la question de la cohésion. On ne peut pas penser au développement si on n'a pas remis tout le monde autour de la table et que tout le monde regarde dans la même direction. Donc la cohésion provinciale est un des piliers les plus importants pour pouvoir se lancer sur la voie du développement. Et comme je l'ai dit, et je le redis encore, notre premier chantier va être la cohésion provinciale. Et une fois qu'on a la cohésion provinciale, tout le monde se tient la main dans la main, alors en ce moment-là, on peut avancer tous ensemble vers le développement. Mais après la cohésion provinciale, ça va être le désenclavement de nos zones agricoles. Vous savez bien que la province du Congo central est prioritairement agricole. Donc nous allons nous attaquer au secteur agricole en désenclavant toutes nos cinq zones agricoles qui sont connues et qui sont assez prolifiques. Il va juste falloir prioritairement identifier les routes qui vont permettre que toute la production qui se retrouve dans l'arrière-pays puisse revenir en surface. Et puis derrière, vous avez la mise en place de toute la chaîne de valeur.
Dans un autre chapitre, en Ituri, les jeunes de Mambasa Centre en colère protestent depuis hier jeudi contre la présence des rebelles ougandais de l'ADF dans cette zone située à 165 km au sud-ouest de la ville de Bunia. Certains manifestants soupçonnent même les casques bleus d'être de mèche avec l'ennemi qui fuit les opérations militaires au nord Kivu pour exprimer leur ras-le-bol. Les manifestants ont saccagé hier la base logistique, la base locale d'une ONG internationale. L'administrateur du territoire condamne la réaction de la population qui, selon lui, contribue à déstabiliser la zone. C'est ce que nous raconte Ezekiel Mouzalia.
Tout est parti de l'annonce sur l'atterrissage des deux hélicoptères de la brigade d'intervention de la MONUSCO FIB à l'aérodrome de Mandima. Selon des sources locales, ces soldats onusiens sont venus pour une mission de 3 jours afin d'y mener des patrouilles de combat conjointement avec les militaires des FARDC dans cette localité. Pour certains manifestants, la présence des casques bleus risque plutôt de déstabiliser la zone. Pour exprimer leur ras-le-bol, ils ont saccagé la base d'une ONG internationale et endommagé 3 véhicules. Souleymane Onokoko, président du Parlement territorial des jeunes.
Lorsque la MONUSCO est arrivée en territoire de Mambasa, à l'aérodrome de Mandima, c'est pour cette raison que les jeunes en colère sont retournés et caillassés 3 véhicules et d'autres biens de valeur.
Selon l'administrateur du territoire de Mambasa, la MONUSCO est un partenaire du gouvernement congolais. Jean-Baptiste Mounyampandi condamne l'attitude de la population qui, selon lui, se trompe des cibles.
La MONUSCO est en train de travailler en partenariat avec le gouvernement. La population doit faire montre de ses capacités, de responsabilité pour que la sécurité puisse être assurée.
Signalons que dimanche dernier, ces rebelles des ADF ont incendié environ 10 véhicules contenant des marchandises sur la route nationale numéro 4. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
On reste en Ituri où le G5, une organisation qui regroupe en son sein les 5 communautés locales victimes des massacres, a entamé ce vendredi 2 semaines de journée ville morte. Ils protestent contre cette situation malgré l'état de siège. La société civile et la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, s'opposent à cette démarche qui cause des préjudices à la population déjà meurtrie par la guerre. Le récit de Martial Kizebiamungu.
La ville de Bounia s'est réveillée comme d'habitude ce vendredi. Les écoles, universités et instituts supérieurs, les services étatiques, les transports en commun, tout s'est passé normalement. Même décor au marché central de la ville. Certains habitants disent qu'ils ne sont pas informés d'un quelconque mot d'ordre appelant à des journées ville morte. D'autres ont résolu carrément de boycotter cette décision conformément à la demande de la société civile, de l'Ituri et de la FEC qui encourage les habitants à vaquer librement à leurs occupations. Pour Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, demander à la population déjà meurtrie de rester à la maison pendant 15 jours est tout simplement suicidaire.
Aller à 15 jours de journée de deuil va préjudicier seulement la même population.
Pour le G5, son objectif est atteint, celui d'interpeller le gouvernement à prendre ses responsabilités pour mettre fin aux tueries des civils à l'Ituri. Vikingona, son porte-parole.
L'essentiel, c'est n'est pas ville morte, c'est le message qui a été adressé au gouvernement congolais de prendre sa responsabilité régalienne.
Notons qu'environ 80 morts sont enregistrés en espace de 5 jours dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Depuis les boulevards de libération à Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Tanganyika, pendant ces temps, l'attaque menée par des miliciens Twa a coûté la vie hier jeudi à plusieurs personnes à Katibili et à Mala dans les chefferies de Tumbu et de Rukutu au sud du territoire de Kalemie. Cette crise a jeté du coup sur la route des centaines d'habitants. L'autorité provinciale parlait d'une situation préoccupante. Radio Okapi Kalemie, François-Xavier Mibé.
Nous avons tous fui. Je viens de perdre 2 membres de famille. Ces témoignages parmi beaucoup d'autres rapportent sur la dégradation de la situation sécuritaire dans les 48 heures au village de Katibili, Katolo et Mala. Une situation qui remonte à plus d'une semaine déjà. Hier, autour de 13 heures, la milice Twa est venue attaquer 3 villages, Katolo, Moussipi, et une grande famille vient de disparaître à Mala. Il n'y aura pas d'enterrement pour toutes ces victimes depuis le conflit Twa Bantu. Je pense que c'est l'attaque de Mala qui enregistre beaucoup de morts. Difficile pour le moment d'établir le bilan exact de cette attaque. Toutefois, les habitants fouillant les hostilités parlaient d'un nombre important de morts. L'hôpital général a admis hier déjà 8 blessés à coups de flèche. Dans un point de presse tenu hier même, le ministre provincial de l'Intérieur attribue l'attaque de Katibili et Mala à la milice Twa contre des miliciens Bantou éléments qui répondent aux commandes d'un certain seigneur de guerre Bitonto, Didone Kamona.
Notre province est une province post-conflit. La situation reste encore fragile. Il faut l'apport de tout un chacun pour pouvoir nous amener à la bonne cohabitation.
Kalemi, François Djabé Mibé, Radio Kapi.
Faisons un détour maintenant par le Nord Kivu où une vingtaine de conflits fonciers ont été réglés lors d'un processus de conciliation qui a été mené au sein de la communauté dans les territoires de Nyiragongo. Des conciliations entre les parties ont été homologuées hier jeudi après-midi par le tribunal de paix en audience foraine tenue à Kibumba. Cette action a été menée dans le cadre du projet dénommé Ensemble pour la sécurité et la paix dans les territoires de Rutshuru, Massi ici à Nyiragongo, à Goma, Sifa Maguru.
C'est le Centre de recherche sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme, Credo, qui exécute ce projet de conciliation avec le financement du consortium Corded et VNG International. Un projet qui contribue beaucoup dans la cohabitation pacifique des habitants, mais aussi à prévenir les conflits intercommunautaires, a déclaré Maître Danny Kambale, superviseur des cliniques juridiques de Credo pour ce programme.
Les différentes parties au conflit ont du mal à résoudre. Alors ces parties-là ont du mal à aller vers la justice parce que non seulement il y a les moyens qu'il faut mettre en jeu. Alors à travers notre programme que nous menons de sensibilisation, c'est après avoir sensibilisé la communauté que la communauté vient vers nous. Nous allons procéder à cette phase de médiation parce que les différents conflits qui règnent dans le territoire de Nyiragongo et d'ailleurs dans les trois autres territoires, c'est plus dans les domaines fonciers. Ces conflits même alimentent d'autres sources d'insécurité.
Notez que ces cliniques juridiques traitent dans l'ensemble les problèmes clés identifiés dans les plans territoriaux de sécurité. C'est entre autres les tracasseries, les kidnappings, les groupes armés, les violences basées sur le genre, les conflits fonciers et de pouvoir coutumier. Cette activité se poursuit ce vendredi et samedi à Sake dans le groupement Kamuronza au sud de Masisi. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Santé à présent. Bientôt le lancement de la première phase de la vaccination contre le coronavirus dans les Kwango. Annonce faite hier jeudi par le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, Dr Léon Makambu, assure que 119 700 doses de vaccins sont déjà disponibles à Kenge et que 73 050 autres doses sont actuellement à Kaemba. À Bandunduville, la correspondance d'Irène Mboma.
Selon les médecins coordonnateurs provinciaux du PEV Kwango, le lancement de cette première phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus au Kwango est prévu pour le 16 mai en cours. Trois types de vaccins, dont Pfizer, Johnson & Johnson ainsi que Sinovac, sont déjà disponibles dans des antennes qui comptent la province, à savoir l'antenne de Kenge et celle de Kaemba. S'agissant de la quantité de doses de ces vaccins déjà réceptionnées, Dr Léon Makambu Salabiakou explique.
Le vaccin disponible que nous avons déjà ici, pour l'antenne Kenge, Pfizer, nous avons 11 700 doses, Sinovac 19 200, Johnson Johnson 88 800. C'est avec ça que nous voulons commencer d'abord la campagne contre le coronavirus dans la province du Kwango. Pour l'antenne Kaemba, Johnson Johnson 57 600 doses, Pfizer 5 850 et Sinovac 9 600.
L'occasion, Dr Léon Makambu sensibilise la population du Kwango que la vaccination reste l'un des meilleurs moyens pour se prévenir de la pandémie à COVID-19. D'où la population doit profiter de cette campagne qui commence pour se faire vacciner massivement. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis lancement hier jeudi au sud Kivu de la troisième phase du projet intégré de lutte contre la malnutrition dans les zones de santé de Bunyakiri et de Minova, territoire de Calais. Et ce projet conjoint de la coopération suisse, la FAO, le PAM et l'UNICEF visent à réduire la forte prévalence de la malnutrition sévère dans ces entités d'ici 2026. Ce projet sera exécuté par le Programme national de nutrition. Reportage à Bukavu de Cynthia Bachizina Bizana.
66 et 51%, c'est respectivement le taux de malnutrition dans les zones de santé de Bunyakiri et Minova, selon une enquête de la coopération suisse réalisée en août 2021. C'est largement au-delà du seuil critique de 30%, mais ce taux a été réduit de 15% dans les deux premières phases de ce projet. Alors en quoi consiste la phase 3? Kabwika Lankwa, assistant technique au Pronamut Sud Kivu.
Cette phase ici, c'est une phase de consolidation de ce qui a été déjà fait. La stratégie de mise en œuvre repose sur l'appropriation. Le grand défi, c'est de pouvoir apprendre aux maires à travers des séances de sensibilisation, comment développer les comportements et les pratiques liées à l'alimentation des jeunes enfants, surtout les enfants de 0 jusqu'à 23 mois.
C'est l'UNICEF qui va assurer la coordination de ce projet au niveau des agences onusiennes impliquées. Jean-Ludovic Menetier, chargé de programme de l'UNICEF à l'est du pays.
Il y a l'UNICEF qui intervient dans le domaine de la santé et de la malnutrition, la FAO qui intervient notamment pour améliorer le revenu des familles avec des activités génératrices de revenus et avec le programme alimentaire mondial qui va fournir des aliments nutritifs.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président des Émirats arabes unis, Khalifa Ben Zayed, qui avait accompagné pendant 20 ans l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale, est décédé ce vendredi à l'âge de 73 ans. Le gouvernement a décrété un deuil national et les drapeaux sont mis en berne pendant 40 jours. Selon la constitution émirienne, le premier ministre Mohamed Ben Rachid assumera l'intérim en attendant l'élection du nouveau président. Au moins 8 soldats ont été tués hier soir au poste de sécurité proche de la frontière avec le Burkina Faso. Les chefs d'État togolais, béninois et burkinabé qui sont vivement préoccupés appellent à une véritable collaboration des États voisins pour lutter contre le terrorisme.
L'invité.
Notre invité, c'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, parle du forum de réconciliation prévu du 17 au 19 mai à l'Assemblée épiscopale sur les thèmes « Frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours », objectif affiché, faire taire les dissensions et les querelles dans l'espace Grand Katanga. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Monseigneur Fulgence Muteba, bonjour.
Bonjour.
Du 17 au 19, il y aura ce forum que vous avez initié. Il y en a qui sont beaucoup plus réticents parce que ce forum semble avoir des acquaintances politiques. Qu'en dites-vous?
J'ai dit qu'il s'agit tout simplement d'une initiative citoyenne et donc dont la finalité n'a rien à voir avec la politique, mais c'est tout simplement pour raviver et consolider la fraternité. Le pape François a publié une encyclique sur la fraternité et cette encyclique est d'une richesse telle que nous ne pouvons pas ne pas l'exploiter. Et voyant les divisions qu'il y a entre les politiciens, de quelles divisions ont des répercussions au niveau de notre population, nous nous sommes dit, nous nous plaignons que nous ne connaissons pas les développements et nous vivons dans la pauvreté. Mais entre autres, justement, parce que nous sommes tellement distraits par toutes ces divisions, nous nous sommes dit, au niveau des Katangais, il faut qu'on mette fin à ces divisions pour qu'on puisse consolider la cohésion et nous rappeler effectivement que nous portons le même sang dans nos veines et nous avons les mêmes valeurs en tant que province. Et c'est une initiative qui aura sans doute des répercussions au niveau de tous ceux qui vivent au Katanga. Nous ne voulons exclure personne, mais il est important que nous commencions d'abord nous-mêmes par consolider notre cohésion avant de pouvoir rassembler les autres.
Vous parlez réconciliation, ça veut dire en amont, il y a des problèmes. En tant que pasteur, quelle serait la pomme des discords, des divisions entre Katangais?
Eh bien, c'est justement les intérêts politiques, il y a aussi les intérêts économiques, il y a la lutte des positionnements politiques. Et alors, maintenant, ce que nous nous prêchons, c'est l'unité dans la diversité. Chacun reste dans sa plateforme politique ou dans son parti politique, mais quand il est dans la compétition politique, il est important qu'il n'oublie pas qu'il a des frères et des sœurs et que la hache des guerres doit être enterrée. Les divisions, même au niveau national, nous les constatons, ça ne nous amène nulle part. Au contraire, elles nous distraient des vrais enjeux. Les vrais enjeux, c'est quoi? C'est que les richesses naturelles puissent servir à notre population, puissent servir au budget de notre pays. C'est que nous puissions vivre dans une certaine cohésion en sachant que bon, le Congo, c'est un patrimoine commun, tout comme le Katanga, c'est un patrimoine commun. Alors, c'est un peu ça le message que nous voulons faire passer.
Monseigneur, vous savez très bien que les leaders politiques ont des visions diamétralement opposées. Qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, les leaders qui seront réunis vont regarder dans la même direction pour le développement du Grand Katanga?
La démarche est vieille de 8 mois. Et pendant 8 mois, j'ai eu à côtoyer les uns et les autres. Que ce soit les députés, les sénateurs, les opérateurs économiques, les gros poissons du monde politique. J'ai senti qu'il y a la bonne foi de part et d'autre.
Par gros poissons, vous entendez qui, monseigneur?
Enfin, je veux dire, vous savez qu'il y a des gros poissons et des petits poissons dans une rivière. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je sens vraiment qu'il y a la bonne foi. Les gens sont disposés maintenant à se parler. Et avec les réalités de notre contexte, que ce soit au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel, font qu'ils sont disposés à pouvoir se parler. Et ça, je considère que c'est un acquis. J'aurais pu m'arrêter à ce niveau et dire que non, on a réussi. Parce que maintenant, on se rend compte que bon, il y a eu des erreurs qui ont été commises par les uns et les autres. Tout le monde s'est embarqué dans une espèce d'euphorie qui ne nous a amené nulle part. Et maintenant, c'est le moment de se ressaisir pour reconstruire, pour consolider la fraternité, la vraie fraternité dans la vérité. Mais en même temps, cette unité dans la diversité, on la commence d'abord au niveau des fils et des filles du Katanga et ça doit réagir au niveau des fils et des filles de la République démocratique du Congo.
Avant de terminer, Monseigneur, nous savons très bien que les leaders politiques sont caractérisés par la versatilité et le non-respect des engagements. Est-ce que la présence des grands leaders, que vous appelez gros poissons, ne serait pas pour des raisons cosmétiques?
Je ne pense pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le travail qui a été fait pendant 8 mois avait pour but justement d'éviter ces solutions de surface, des solutions cosmétiques. J'ai perçu dans le chef des uns et des autres des dispositions de cœur pour une vraie réconciliation. Évidemment, je ne suis pas Dieu pour prévoir qu'ils ne vont pas respecter ce qu'ils vont se dire, mais j'ai foi en l'homme, moi. L'homme, c'est une complexité. L'homme, c'est une surprise. Et je pense que, en voyant cette bonne volonté, nous vivons véritablement ce qu'on appelle en théologie le kairos, le moment favorable pour que les gens puissent se parler. Bon, j'ai fait confiance aux uns et aux autres.
Monseigneur Faisance Moutéba, je vous remercie.
Je vous en prie.
C'était l'invité de Radio Okapi, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Moutéba, interrogé par Jean Gandou. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 18h20. Merci à Pierre Oyela Meji et Noël Alouzi Tukumo en m'accompagner.